Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux faits religieux et à leurs imbrications dans la société. Autrement dit, peut-on vivre ensemble tout en étant issus de cultures et de religions différentes? C'est sur cette question que vont tenter de répondre des jeunes issus de centres éducatifs situés dans le nord de la France. Une émission réalisée en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse. Avec nous aujourd'hui deux jeunes issus de ces centres. Il s'agit de Mouloud et de Djoul. Bonjour.
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 Ainsi qu'un spécialiste de l'islam, Rachid Rezaghia. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous aborderons donc tout d'abord le poids des religions au sein du pays, de la France. Ensuite, un focus sur l'islam qui demeure une religion stigmatisée par beaucoup de Français. Et enfin, nous nous interrogerons sur les différentes manières d'aboutir à un vivre ensemble de manière apaisée. Alors, ma première question va s'adresser aux jeunes directement. À votre avis, quelles sont les trois religions principales en France ?
La religion musulmane.
Mmh. Donc l'islam.
Le christianisme. Et comment dirais-je ? Et le judaïsme.
Et le judaïsme. Voilà, donc c'est bien ça. Actuellement, ce sont trois religions dominantes en France. Donc le christianisme, l'islam et le judaïsme. Si deux de ces religions sont présentes depuis longtemps dans l'Hexagone, l'islam est beaucoup plus visible en France depuis le siècle dernier, puisqu'un recensement effectué en 1906 avait estimé à environ 10% la part des habitants de confession musulmane, soit environ 3,9 millions sur une population totale d'environ 39 millions de personnes, un chiffre plus important qu'aujourd'hui, qui s'explique par l'inclusion à cette époque-là de l'Algérie, qui était encore une colonie française dans le recensement de la population. Alors aujourd'hui, on dénombre environ 2 millions de musulmans en France pour 12 millions de chrétiens et un demi-million d'adeptes du judaïsme. Mais ces chiffres ne sont que des estimations. En effet, la loi française interdit de recenser les populations par religion. Et c'est donc un résultat issu d'une enquête intitulée « Trajectoire et origine » menée par l'INSEE et par l'Institut National d'Études Démographiques sur la base de sondages et qui estimait donc les fidèles musulmans à 2,1 millions en 2008 contre 11,5 millions de catholiques parmi la population de 18 à 50 ans. Alors on va s'intéresser plus précisément à présent à l'islam, la seconde religion en France, qui n'a pas forcément bonne presse partout, et c'est aussi pour démonter un petit peu les idées reçues sur cette religion que nous faisons cette émission aujourd'hui. Alors Mouloud et Djoul, que veut dire à votre avis le mot islam ?
D'après mes calculs, le mot islam veut dire louer.
Et est-ce que Djoul, tu as une idée de la signification de ce mot, islam ?
Une religion.
Une religion, oui, mais est-ce que ça a un sens particulier pour toi ?
Bah... ouais.
Lequel ? Tu ne sais plus ? Alors on va poser la question à Rachid Rezaghia. Que signifie donc le mot islam ?
Donc le mot islam est un mot qui provient de la langue arabe et qui trouve sa racine dans le mot salam. Donc on pourrait le définir en faisant une périphrase et en étant très synthétique et très imprécis malheureusement. Ça serait une soumission volontaire à la volonté divine, mais une soumission apaisée à la volonté divine. Et puisque souvent, avec les glissements sémantiques, connu ce terme en France, avec l'actualité, ce terme est souvent confondu avec soumission à Dieu. Mais on retient souvent la soumission en dénuant le sens de sa dimension spirituelle.
D'accord, donc c'est bien effectivement de le préciser. Alors, Mouloud et Djoul, est-ce que vous savez de quand date l'islam ? La création de l'islam ?
La création de l'islam date de...
Depuis longtemps ?
Depuis longtemps, oui. Alors, depuis un certain temps, mais depuis quand ? Depuis combien de temps à peu près ? Est-ce que vous avez une idée ?
La religion musulmane a été créée vers les années 1438.
1438. Alors, Rachid Rezaghia, est-ce que c'est 1438 ?
Non, c'est bien avant.
Donc, c'est bien avant, d'accord.
L'islam est apparu, donc les premiers cycles de révélation ont été faits à... Donc cette religion vient d'un personnage, un personnage central, qui s'appelle Mahomet, connu comme étant Mahomet en Occident, mais qui les textes anciens l'appellent Mohammed. Donc l'islam serait apparu, ce personnage est né en 570, Et l'islam fait ses premières apparitions en 610, donc au 7e siècle. Mmh. Voilà.
Rachid Rezaghia, est-ce qu'il y a des liens, des origines communes entre l'islam, le christianisme et le judaïsme ?
Oui, déjà, le premier point commun, le point de convergence, c'est que c'est une religion monothéiste, hein, monothéiste, donc qui veut dire... Donc il y a une croyance en un seul Dieu, voilà. Et l'islam se présente comme étant, en tout cas sur le plan spirituel, hein, le texte central de l'islam qui est le Coran, présente l'islam comme étant une continuité avec les deux religions monothéistes précédentes. Et cette revendication, cette filiation aux religions monothéistes est souvent répétée dans le Coran. Donc on a beaucoup de références à des personnages centraux dans les autres religions monothéistes, notamment Moïse, Jésus, hein. Moïse, Jésus, les livres aussi, les livres saints des autres religions monothéistes sont présentés dans... On en fait référence aussi dans le Coran, notamment la Bible, l'Évangile, l'Ancien Testament. Voilà.
Alors oui, je crois que Jésus, il porte un nom bien précis hein, dans le Coran.
Jésus a une place centrale dans le Coran et il porte le nom de Aïssa en arabe. Mmh. Voilà.
Très bien. Alors justement, Mouloud et Djoul, est-ce que vous connaissez la signification du mot Coran ?
La paix.
La paix. Et Djoul, est-ce que tu as une idée de la signification de ce mot ?
Non, pas du tout.
Alors Rachid, j'ai lu que le Coran signifiait la récitation. Est-ce que c'est exact ?
Oui, effectivement. Donc, alors, ça veut dire récitation, donc iqra en langue arabe, hein, lit. Hein, donc ça vient aussi un petit peu de... Ça remonte un peu à la Genèse des premiers cycles de révélation, où l'ange Gabriel, donc un ange qui est présent dans l'Ancien Testament, dans la Torah et dans l'Évangile, serait apparu à Mohammed en 610 et lui aurait dit « Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé ». Donc le mot Coran veut dire récitation.
Et ça veut dire aussi que le Coran en lui-même, il a été écrit, je crois, pendant une vingtaine d'années. C'est-à-dire que c'est une récitation. Mahomet, en fait, a retranscrit un peu ce que Dieu, enfin, ce qu'Allah lui disait. Hein.
Dans une vision purement religieuse, on peut dire que Mahomet a reçu des révélations. Maintenant, de ma position d'historien, on parle de cycle révélatoire, d'aspiration. Effectivement, il y a deux temps dans les révélations coraniques. Un premier temps où Mahomet est à la Mecque, hein, donc de 610 les premières révélations, et en 622, il va quitter la Mecque pour aller dans une ville qui se situe à 400 km environ pour Médine. C'est les deuxièmes cycles de révélation du Coran.
Alors, autre idée reçue, Rachid, est-il vrai que les pays du Maghreb sont minoritaires dans la pratique de l'islam ?
Oui, effectivement. Il y a souvent une idée reçue où on confond islam et arabe, surtout d'un point de vue français, puisque l'islam est connu par les gens qui proviennent de l'immigration maghrébine, donc le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Mais l'islam est une religion où les arabes sont minoritaires. La majorité des musulmans se situent en Asie, hein, en Indonésie. Voilà. Donc ça, souvent, on a l'impression que islam égale arabe, puisque l'islam est né en Arabie. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. Voilà, la majorité, les Arabes sont une minorité des musulmans dans la communauté musulmane.
Alors Mouloud et Djoul, vous le saviez ?
Ouais, non.
Pas du tout ?
Okay. Moi, je le savais que c'était en Indonésie, car Rachid me l'a déjà dit précédemment.
Très bien. Alors, une question un peu plus délicate. Beaucoup d'Occidentaux ne comprennent pas forcément la manière dont les femmes sont traitées dans l'islam. Alors, quelle est vraiment la place de la femme dans l'islam, ou plutôt dans les différentes déclinaisons de l'islam ? Parce qu'on peut pas vraiment catégoriser l'islam en une seule et unique religion. Il y a beaucoup de courants de la même manière que dans le christianisme ou que dans le judaïsme.
Donc, en ce qui concerne la place de la femme dans l'islam, effectivement, souvent, encore une fois, comme tout à l'heure, je disais qu'avec des processus de simplification, on voudrait que la femme, en simplifiant plutôt, on voudrait que la femme soit maltraitée, soit inférieure de l'homme dans l'islam, mais encore une fois, c'est toujours une question de contextualisation. C'est qu'on a une vision littéraliste du texte, il faut se rappeler que la place de la femme en islam, le Coran dit par exemple... La femme est le manteau de son mari, le mari est le manteau de sa femme. Il y a toujours une symétrie parfaite entre le féminin et le masculin dans le texte coranique, mais parfois la femme peut avoir un statut inférieur au sens contemporain du terme. Mmh. Mais il faut savoir que le Coran est un texte du 7e siècle, donc il parle des femmes du 7e siècle. Donc quand on le rend intemporel et on veut le pratiquer de cette manière au 21e siècle, forcément... Il va avoir une inégalité entre l'homme et la femme. C'est toujours une question de contextualisation et de compréhension exacte du Coran.
Alors, en préparant cette émission, l'un d'entre vous, je crois que c'était Djoul, a fait un amalgame entre islam et terrorisme. D'ailleurs, ça peut être intéressant de revenir là-dessus. Djoul, pourquoi pensais-tu que l'islam signifiait terrorisme ?
D'après ce qu'on entendait tous à la télé. Mais... Bon, on sait qu'ils sont pas tous comme ça. Mm-hmm. Mais d'après ce qu'on entend à la télé, après tout le monde croit ce qu'on dit à la télé, et puis. Puis c'est comme ça que ça fait un engrenage, et puis tout le monde devient. Tout le monde croit que c'est tous des terroristes, en fait.
Mm. Donc c'est la télévision qui t'a beaucoup influencé à, par rapport à ça, par rapport à cet amalgame en fait.
Ouais, mais quand je me suis renseigné, après j'ai bien vu que c'était pas tous, ils étaient pas tous pareils.
Alors Rachid, pour vous, d'où provient cet amalgame ?
Je rejoins un petit peu ce que disait Jules. Donc sur cette, sur l'origine de cet amalgame, je pense que les médias, la surexposition médiatique des terroristes qui sont une minorité, encore une fois dans l'islam, engendre aussi ce phénomène de d'essentialisation. On confond musulmans, islam et terrorisme. Il n'empêche que des terroristes font des attentats terroristes et sèment la terreur, hein, au sens étymologique du terme, au nom de cette religion. Donc, une minorité des musulmans sont des terroristes, mais l'islam n'est pas le terrorisme. Et l'islam ne... C'est-à-dire, les textes, les fondements, les textes fondateurs de l'islam n'appellent pas au terrorisme. Donc, encore une fois, c'est... C'est, mais effectivement, je pense que les attentats qui ont frappé notre pays ces derniers temps font que ça a été exposé médiatiquement. Et c'est normal, les médias font leur travail, ils sont bien obligés de nous informer. Et parfois les gens, certaines personnes, je pense, je dis les gens, c'est un peu simplificateur, certaines personnes ont un contact avec cette religion, donc islam égale terrorisme. Et c'est, encore une fois, je voudrais revenir sur la question d'avant, pour d'autres personnes, islam est égal à burqa. Il y a eu les affaires de la burqa en France, islam est égal à foulard. Voilà, c'est des simplifications intellectuelles comme ça qu'on va faire. Et je pense que les médias, mais c'est pas, on n'est pas dans un complot médiatique contre l'islam, loin de là. Hein. Mais parfois, la surexposition médiatique, mais qui est logique, qui est réelle, puisqu'il y a eu un contexte douloureux dans notre pays, a pu engendrer ça. A pu engendrer ça.
Et il y a aussi l'actualité internationale qui depuis de nombreuses années contribue à cela. Hein. On parle, il y a certains chercheurs qui parlent justement d'une médiatisation trop grande de l'islam radical depuis la révolution iranienne de 1979. Et donc là, du coup, depuis ce temps-là, on a l'impression aussi que c'est un petit peu le même discours qui est redondant. Hein.
Effectivement. Donc déjà dans les années 80, c'est la référence à l'islam radical était, on faisait souvent référence à cet islam iranien. Hein. Donc un islam chiite, hein, donc voilà. Et c'était souvent, on a tous un petit peu dans l'esprit les films qui sont Jamais sans ma fille, ou les ces films où la femme est considérée comme une inférieure, où l'islam obligerait les femmes à se voiler, à se cacher. Et donc, je pense que le contexte international a son impact aussi. Mais il est relié par les médias, c'est normal. Et actuellement, effectivement, les jeunes vont comprendre l'islam. Ou comment je dis les jeunes, c'est une erreur. Je pense que c'est une déformation professionnelle. Mais l'islam est souvent comprise. Et simplifié et essentialisé à sa dimension violente et à sa dimension et à cette minorité terroriste.
D'ailleurs, les premières victimes des terroristes de l'État islamique, pour prendre un exemple, ne sont-elles pas les personnes de confession musulmane justement ?
Effectivement, on pense qu'actuellement, j'ai envie de dire que cet État islamique Daesh hein, s'externalise et fait des attentats sur le territoire français, sur d'autres territoires, sur les territoires anglais, sur les territoires belges, sur les territoires allemands. Mais les premières victimes, en nombre, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans en Irak, ce sont les musulmans en Syrie. Mais dans les années 90, pour les premiers mouvements terroristes, avec le GIA algérien, les premières victimes étaient des Algériens qui étaient de confession musulmane. Donc effectivement, les premières victimes de ces mouvements terroristes qui sèment la terreur sont des musulmans, en tout cas en nombre.
On fait une pause musicale et on se retrouve juste après.
Qui a vu le cœur donner le monde à le cœur des Il aimerait tellement aimer Mais les hommes Où t'ont-ils fait prisonnier Mes prières doivent te libérer Le cœur du monde veut être sauvé Mais les hommes Yeah. Le monde a le cœur divisé, même Cupidon n'a aucun effet. Toutes ces flèches ont échoué. Car les hommes, la fumée des bombardiers et la pollution l'empêchent de respirer. Le cœur du monde va s'arrêter. Car les hommes. Je vois dehors des cœurs en panne, des cœurs en or devenir des cœurs de pierre, des cœurs de glace, des cœurs en flamme, des cœurs qui explosent au milieu de cœurs de mer. Si tu nous entends, viens nous le réparer. Le cœur du monde va mal, monsieur le cœur donnier. On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré, on a trop besoin d'aimer. Monsieur le cœur donnier, oui je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant, tu recouds avec le sourire d'un passant, tu recolles avec la douceur d'une maman, tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur donnier, c'est nous.
C'est... Et toujours en compagnie de Rachid Rezeghia, spécialiste de l'islam, de Mouloud, un jeune issu d'un centre éducatif fermé, et de Joule, un autre jeune issu, lui, du milieu ouvert. Alors on va poser une question à Mouloud justement. Tu disais en préparant cette émission que pour vivre ensemble sans heurts, on pouvait pratiquer sa religion mais avec pudeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'a pas à le crier sur tous les toits par exemple?
Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout que chacun peut pratiquer sa religion, peut faire ses prières. Par exemple, un musulman, il doit faire ses 5 prières. Il peut les faire, il peut avoir 5 minutes dans la journée pour avoir un peu de pudeur. Voilà, et c'est une intimité personnelle, moi je pense. Je pense que voilà, un chrétien, il peut le soir avant de dormir, il fait ses prières sur son lit, ou voilà, ça ne dérange personne. Chacun sa religion. On est dans un pays laïque, voilà, un pays où il y a beaucoup de laïcité. Voilà.
Jules, tu en penses quoi de ça?
Ouais, qu'il n'y a pas tort.
Mais pourquoi?
Bah, parce que c'est vrai qu'on est dans un pays laïque, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Ah, tout ce qu'ils veulent, quoi, il y a des limites, mais bon.
Alors, c'est quoi les limites, justement?
Bah, enfreint la loi, tout ça.
Sans discrétion, je pourrais savoir, c'est quoi pour toi enfreindre la loi?
Tout ce qui insulte.
Tout.
Dans
ces cas-là, on parle pas de loi, on parle de respect de chacun de soi.
Bah, c'est pareil.
Voilà. Pas comme par exemple, on est dans un pays de laïcs, ça veut dire qu'il y a sûrement des gens qui. On a déjà entendu parler des gens qui ont des mauvaises vues sur les musulmans. Ou puis voilà. Mais voilà, moi je dis que on n'est pas tous les mêmes, qu'il y a des musulmans, ils font ça de plein gré, de leur cœur, qu'ils aiment vraiment leur Dieu, et qui, je dis ça comme ça pourrait être un chrétien qui aime son Dieu, qui aime Jésus-Christ, voilà quoi, c'est un exemple.
Ouais, c'est clair.
Votre point de vue à vous, on a parlé de la laïcité en préparant cette émission. Un des jeunes qui n'est pas présent aujourd'hui, malheureusement, avait souligné que justement la loi sur la laïcité n'était pas forcément appliquée. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pouvez donner des exemples de cela par rapport à la laïcité? Et d'ailleurs, comment définir la laïcité peut-être? Qu'est-ce que c'est la laïcité pour vous? On parle de laïcité depuis tout à l'heure.
C'est, pour moi, je le vois d'un point de vue où de base c'est de la discrétion un peu, non? Il y a Mmh. Il y a des mosquées, il y a des synagogues, il y a voilà, chaque religion a son
propre lieu de culte, culte,
à son propre lieu de culte. Mmh. Et puis voilà. Et moi, pour l'instant, j'ai pas eu d'écho bizarre sur ça. Mmh. C'est-à-dire quand quelqu'un il va faire sa prière, il y va, ça dérange personne. J'ai des amis chrétiens, des amis juifs, des amis qui sont athées. Mmh. Ouais, ça me dérange pas. C'est pour ça que je dis que c'est une intimité personnelle.
Mmh. Jules, tu es du même avis ?
Bah oui, quand même.
Et est-ce que tu as un exemple en tête de laïcité qui n'est pas forcément bien appliqué ? Est-ce que tu as quelque chose en tête qui te fait penser à ça ?
Non.
Non ?
Non, pas du tout.
Rachid, quel est votre point de vue là-dessus, justement ? Ce que disait un de ces jeunes qui, justement, soulignait que la loi sur la laïcité n'était pas forcément appliquée tout le temps.
Alors la loi sur la laïcité, peut-être revenir sur une date importante, mmh. 1905. Donc voilà. Donc la laïcité, cette loi a été promulguée en France en 1905. Et à la base, c'était dans un contexte de conflit entre les tenants entre chrétiens, catholiques et l'État. Donc c'est la séparation entre l'Église et l'État. Donc ça veut dire qu'en fait, en schématisant, en étant le plus simple possible, parce que voilà. Donc ça voudrait dire que tout ce qui relève de la pratique religieuse doit se faire dans la sphère privée. C'est un peu ce que tu disais, Bilal. Donc c'est dans la sphère privée. Et il faut faire une stricte dichotomie entre la sphère privée et la sphère publique. Donc par exemple, on a un exemple concret, excusez-moi pour cette redondance. Donc il y a eu toujours eu ces problèmes qui gravitaient autour du, par exemple, mettre un foulard à l'école. Hein. Mmh. Est-ce que pour vous, c'est normal que la laïcité nous dise, je vais essayer d'animer un peu le débat si vous me permettez. Oui. Donc le foulard à l'école, donc c'est interdit dans une école laïque, une école publique. Donc c'est parce que tout le monde, là, on doit faire preuve de neutralité. Donc pour vous, je parle aux deux jeunes, est-ce que pour vous, c'est normal que l'État français, la République française, affirme que, au nom de ce principe de laïcité qui vient de 1905, hein, voilà, qui a été promulgué en 1905, pardon, une fille, hein, puisque c'est souvent le cas des filles, ne peut pas arriver voilée dans un collège ou dans un lycée?
Après, de mon point de vue, je pense que c'est un truc peut-être qui met en désaccord plusieurs personnes, beaucoup de gens, je suppose. Mais voilà, moi, à présent, ça me dérange pas parce que faut pas oublier que de base, on est dans un pays qui, à la base, c'est un pays chrétien.
C'est un pays laïque.
Là, c'est un pays laïque.
Oui.
Ouais, voilà. Mmh. Et ça dérange pas. Mais déjà, c'est déjà bien que dans la rue, qui tolère des femmes voilées parce que, voilà, j'en ai déjà vu des chrétiennes, des sœurs chrétiennes, comme des sœurs musulmanes. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a choqué ou qui m'a mis en désaccord. J'accepte. Et voilà.
Tu fais preuve de tolérance donc. Jules, quel est ton point de vue là-dessus ?
Bah, moi j'accepte tout.
Donc tu es d'accord avec le fait que des collégiennes puissent arriver, ou des collégiennes ou des lycéennes puissent arriver voilées dans un collège ou dans un lycée, ça ne te pose pas de problème ?
Bah, d'après moi, non. Mais pour certains, peut-être que oui. Parce qu'ils vont peut-être pas la reconnaître. Parce qu'ils vont peut-être pas la reconnaître avec son visage.
Il y a un peu cette question-là aussi, hein, qui est justement abordée dans le cadre de tout ce qui est établissement de papier par l'administration, etc.
Oui, effectivement. Donc, mais est-ce que je pense que Jules... donc après, c'est la question de, encore une fois, le foulard ou la burqa, hein, j'imagine. Hein, donc la burqa où les visages sont pleinement couverts. Et certaines personnes revendiquent le droit de porter un foulard au collège ou au lycée parce que le visage est visible. Il n'empêche que, voilà, on est, en tant que fonctionnaire du ministère de la Justice, une administration régalienne, le foulard est interdit à l'école, dans une école publique en tout cas. Donc la loi transcende nos points de vue personnels, mais on est là aussi pour s'exprimer, hein, mais la loi c'est la loi. Voilà.
De la même manière que le port du crucifix est interdit au collège et au lycée.
Ou de la kippa.
Voilà, ouais.
Ma chérie, je reste pas longtemps, c'est promis. Fais pas de bêtises, j'ai confiance en toi. Fais rentrer personne, je compte sur toi. Y'a que toi dans ma vie, tu sais. Personne dira le contraire, c'est clair et net. Je te laisse, bisous, bisous mon bébé. J'ai rien oublié, passe-moi les clés. Si on m'appelle, tu sais quoi dire. Je suis pas là, pas là, pas là. S'ils insistent, tu sais quoi faire. Tu rara, rara, rara. Mais c'est quoi ce tête que tu me fais là? Non arrête s'il te plaît babe, je suis en retard. Laisse reposer mon rangeron. Je m'en occuperai jusqu'à l'heure. Allez, elle m'a piqué. Ce soir c'est gâté.
j'ai capté. Je ne rentre pas dans ton jeu. Shaina Naligia, Shaina Naligia, Shaina Naligia, Shaina Naligia, Naligia. Je vais me barrer, Naligia. Je dois filer, c'est la pause contre la montre. Je te laisse une seconde. Et m'arrangeront, je m'en occuperai jusqu'à
aller ma pique. Ce soir c'est gâté. J'ai capté. Je ne rentre pas dans ton jeu. Shaina Naligia, Shaina Naligia, Shaina Naligia, Shaina Naligia. Shaina, je suis là. Tu m'as et tu m'as toujours eu. C'est la magie que je vois. Je bouge pas, je reste ici. Maintenant je suis à toi. Même moi que tu diras rien. Ça reste entre nous deux. On n'a pas le temps.
Ce soir c'est gâté. J'ai capté. Je ne rentre pas dans ton jeu. Shaina Naligia, Shaina Naligia, Shaina.
De retour sur Radio Plus dans cette émission spéciale consacrée aux faits religieux, toujours en compagnie de Rachid Rezaghia, spécialiste d'islam de Mouloud, un des jeunes issus du centre éducatif fermé, et de Jules, lui, issu du milieu ouvert. Alors, on en était justement avant cette pause musicale, on parlait un petit peu de laïcité. Jules, est-ce que les religions t'intéressent ? Est-ce que toi, tu pratiques une religion ou pas ?
Non, aucune.
Aucune, donc tu es athée.
Oui.
Pour toi, justement, le fait que des amis pratiquent des religions, qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que, justement, tu acceptes le fait qu'ils pratiquent des religions
Bah oui, parce que c'est leur droit. C'est leur droit, voilà.
Et toi, tu t'y intéresses moins ou est-ce que tu y penses parfois ? Est-ce que tu...
Non, j'y pense même pas. Non.
Mouloud, est-ce que le fait que Jules soit athée, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut poser problème par exemple ?
Non, franchement pas du tout, ça me dérange vraiment pas.
La laïcité c'est aussi ça, c'est de pouvoir justement faire ce qu'on souhaite, hein, Rachid.
Oui, effectivement, la laïcité ça a souvent été perçu comme étant une espèce de religion, une contre-religion, hein, une religion qui rejette toutes les autres religions, mais c'est pas du tout le cas. En fait, la laïcité, ça doit permettre la liberté religieuse pour tous les cultes présents sur le territoire national. Voilà. Tout avec ce principe de neutralité, mais il faudrait revenir au contrat social, etc., etc. C'est chaque individu doit laisser une part de sa vie privée de côté pour pouvoir vivre en société. Donc, mais la laïcité, justement, ça permet l'expression de toutes les religions et pas d'une seule religion. Ça donne droit de cité au judaïsme, droit de cité à l'islam, droit de cité à l'athéisme, etc., etc., et au bouddhisme et à toutes les religions qui existent sur le territoire national.
Alors, on va terminer avec cette question. Quel est votre avis à tous sur justement cette question centrale ? Peut-on vivre en harmonie en France en pratiquant différentes religions ? Et si oui, pourquoi ? Et sinon, que faudrait-il faire pour améliorer cela d'après vous ? Mouloud ?
Ouais, franchement, moi, je pense qu'on peut tous vivre ensemble. Après, comme j'ai dit, ça reste une intimité personnelle. J'ai des amis chrétiens qui m'ont déjà vu en abaya et ils ont, voilà, ça les dérange pas.
La abaya, c'est une tenue traditionnelle, comme une djellaba.
Voilà.
D'accord, c'est bien de le préciser aussi.
Voilà, j'ai des collègues à moi, des copains, quand ils voient que je fais le ramadan, quand ils voient que je le fais, bah, ils essayent de ne pas fumer devant moi, ils ne mangent pas, discret, tout ça. Mm-hmm. Ils l'ont déjà fait pour respecter. Voilà.
Jules, quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce qu'on peut vivre ensemble de religions différentes, de pratiques religieuses différentes en France?
Bah oui, pourquoi pas. Oui.
Rachid, ça paraît évidemment possible, mais pourquoi ça reste compliqué quand même dans la société pour vous?
Pour répondre à votre question initiale, est-ce qu'on peut? Je pense qu'on doit. On doit vivre ensemble. Maintenant, ça reste compliqué. Puis, d'une manière utopique, un petit peu, hein, il faudrait vivre en. Il faudrait qu'on ait une société équilibrée où chaque culte puisse pratiquer comme il l'entend, où les gens qui ne sont pas dans un culte puissent vivre. Donc ça serait la société française idéale. N'empêche que malgré qu'on est avec un public de mineurs, on sait très bien que c'est une utopie. Donc les lois sont là pour contenir, hein, et pour aussi donner des espaces de liberté. Maintenant c'est compliqué, à mon sens, comment dirais-je, c'est qu'il y a toujours eu des vagues d'immigration. Je pense qu'on peut pas comprendre cette difficulté qu'a l'islam à s'intégrer sur le territoire national, si on met pas ce phénomène en lumière avec l'histoire de l'immigration, n'empêche que il y a eu des immigrations qui ont précédé les immigrations des Maghrébins, les immigrations l'immigration polonaise, l'immigration italienne, mais ces gens-là étaient catholiques. Ces gens-là étaient catholiques. Là, l'islam, c'est une religion qui est différente. Donc les catholiques vont à l'église. Donc les Italiens, les Polonais pouvaient aller à l'église du village, à l'église du quartier. Les musulmans ont dû au départ, ils pratiquaient vraiment dans la discrétion pour les premières vagues d'immigration. Et par la suite, ils sont devenus visibles, puisqu'on est dans les premières, voire deuxième génération. Donc comment ces Français, qui sont Français, j'insiste, comment vont-ils pouvoir pratiquer différemment que les autres Français? Donc c'est essayer de trouver une adéquation entre ces entités et ces altérités. Et c'est vraiment une équation qui est très difficile. Qui est très difficile, puisqu'on rajoute une autre donnée à l'équation, c'est la laïcité. La laïcité qui veut... Voilà, cette loi de 1905, hein, donc qui est appliquée à cette religion comme aux autres religions. Donc il n'empêche, il faudrait qu'on rentre vraiment dans le débat. C'est hyper, c'est hyper complexe. Il n'empêche que c'est possible, on le doit. Mais le problème, je pense qu'il va falloir du temps. Il va falloir du temps puisque c'est quand même une nouveauté sur le plan historique. Parce que je vais dire devant ces jeunes, ça fait que 60 ans, voire 70 ans, ils vont dire c'est vieux. Mais en fait, 50-70 ans, sur le plan historique, c'est quelque chose de très récent. Donc c'est un phénomène qui est récent, donc on verra ce que ça va donner. Il n'empêche qu'on doit vivre ensemble et en équilibre. Ça, c'est une certitude. C'est ma façon de répondre.
Et c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à nos invités Mouloud et Jules, deux jeunes issus d'un centre éducatif fermé et d'une unité éducative en milieu ouvert du nord de la France, ainsi qu'à Rachid Rezaghia, éducateur spécialiste de l'islam. Une émission réalisée par Jean-Philippe Planck de Radio Plus avec le soutien de la protection judiciaire de la jeunesse du Nord.